François Guillemot, garde ton micro pour venir parler. Donc on est dans la série des historiens, le prof d'histoire Baptiste, Christophe, historien, François, historien. C'est l'après-midi des historiens. La jeunesse en merde, essai d'une biopolitique de Berrurier Noir, ça te va ? Tu as gardé ce titre ?
À peu près, ouais.
Voilà la couleur.
Voilà, donc bonjour à tout le monde. Et puis ben, je vais aller un peu dans la continuité de ce que tu as fait, Christophe, parce que tu as parlé de Vlad et tout ça. Et d'ailleurs, j'avais une question, moi, sur l'âge de Vlad et consorts en 75-76. Je pense qu'ils étaient d'une génération un petit peu avant la nôtre. Ils devaient avoir 25, quoi. Ils sont largement avant nous, en fait. Et donc, en préambule, tu as rappelé aussi quelque chose d'intéressant dans ton slide. Je dirais aussi, moi, qu'un groupe de rock, c'est pas une organisation politique, mais c'est tout de même à minima, même dans le mouvement punk avec son caractère urgent et éphémère, une organisation. Un embryon de construction plus ou moins raisonné. On le voit bien quand les gens se rencontrent. Et dans cette construction, on peut identifier un noyau, une fondation, une base sur laquelle va s'agréger d'autres acteurs et par lequel l'action est possible sur la durée. Retracer le parcours d'un groupe, donc voir ce que l'on a réalisé ou pas, voir comment l'action s'est déroulée avec ses contingences internes et externes n'est pas évident. C'est toute la problématique de ces journées d'études, d'ailleurs. Et l'enjeu de mon intervention est de voir comment cet ensemble s'est articulé avec Berrurier Noir. Il s'agit de faire surgir quelques idées forces qui ont rythmé la vie du groupe et de mettre en lumière des processus de création parfois symboliques ou sous-jacents et qui débouchent sur une identité et une pratique musicale, artistique particulière, voire une ontologie, voire une éthique de l'action. J'entends ici donc par biopolitique, un bien grand mot, la conceptualisation d'une contre-culture alternative et sa diffusion auprès du public, de la confrontation via la performance, le théâtre de force qu'évoquait Laurent, à l'osmose, l'expression Kids United par exemple de Cham, l'abolition aussi de la barrière groupe public, et cette évolution s'est accompagnée de slogans, de manifestes déclamés, d'une identité graphique en évolution. Alors on a souvent assimilé Berrurier Noir à une série de catégories contestataires, se positionnant souvent contre quelque chose, antifascisme, antiracisme, antispécisme, anti-autoritaire. Et si au regard de certains textes, ces catégories semblent évidentes, j'aimerais non pas les déconstruire parce qu'elles font toujours sens, mais en élargir le sens et la portée. En tout cas, vous questionnez par rapport à ça peut-être. Et gardons à l'esprit que ces catégories sont des constructions plaquées de l'extérieur, bien souvent, sur le groupe, et pas forcément explicites dans les textes, pour lesquels plusieurs lectures sont possibles et envisageables. Je prends par exemple le texte Bûcheron. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec au moins 3 lectures différentes. Pour mener cette investigation succincte, je me suis appuyé sur quelques slogans, concepts, phrases manifestes, voire sur l'identité graphique du groupe. Cette identité s'est développée à partir de collages. Faut rappeler que nous n'avions que nos cutters, notre colle, nos bras pour diffuser notre pensée. Et avec, en quelque sorte, ça a été fabriqué dans nos chambres, à moi et Laurent, avec en quelque sorte la validation de Laurent à chaque fois, que vous avez vu tout à l'heure, pour asseoir, je dirais, l'identité cognitive du groupe. En un clin d'œil, ces idéotypes permettaient de saisir ou de justifier une attitude artistique, un positionnement politique ou social, une relation à la scène et au public. Donc c'est tout cet ensemble que je nomme largement biopolitique. C'est une idée qui, évidemment, reprise de Michel Foucault, je le cite, il s'agit de saisir des pratiques concrètes et passer les universaux à la grille de ces pratiques. En socio-histoire, on parlerait peut-être plus de moyens de communication à distance, par exemple le son d'une guitare qui parvient à une oreille, le gravé sur un disque qui s'invite chez des gens qui vivent loin de chez vous, et etc. etc. De fils invisibles aussi qui structurent néanmoins une aventure musicale, sociale ou politique. Par exemple, un roadies peut jouer un rôle intéressant. Un conducteur de camion, une costumière, un organisateur de concert. Toutes les personnes dans l'ombre qu'on voit rarement surgir. Je parle par exemple pour les Berruques de Philippe Baya, qui était notre premier, on pourrait dire, mécène du label Rock Radical Records, ou Dominique, qu'on a cité ce matin pour le SO des Bérus, ou un personnage absolument inconnu, Zeman, qui était un de nos premiers photographes, hein, qui a fait la pochette de Concerto. Et tous ces gens-là ont un rôle en fait plus ou moins déterminant. Si on l'élargit à tout le processus de création, on n'est pas si loin de ce que Roger Puivet appelle une ontologie du rock. Jeanne Drouet, qui est une collègue, a parlé d'anthropologie partagée en réactivant un concept de Jean Rouche, et je crois qu'on peut l'appliquer facilement au fonctionnement d'un groupe. En d'autres termes, la pratique permet de déconstruire, de voir plus loin, de mieux comprendre l'enchaînement des situations ou la logique intrinsèque de la création artistique. Comment cette pratique artistique au sein d'un groupe se réfléchit et se rationalise pour dire quoi et quels en sont ses effets, qu'on maîtrise en général pas du tout. Dans l'univers du punk, les slogans n'ont pas manqué et bon nombre de groupes se sont forgés une identité à travers une phrase manifeste, un leitmotiv, une expression slogan concise, extraite d'une chanson, souvent reprise sur des badges. On peut le dire avec les Sex Pistols, évidemment, avec Nevermind the Bollocks, le slogan type, The Clash avec White Riot, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, Sham 69 avec If the Kids Are United, mais aussi d'OTH, avec ce fameux résumé de leur trajectoire, le rock'n'roll et la dernière aventure du monde civilisé. Ou Parabellum, Mort aux Vaches, Mort au Condé, Ludwig von 88, Oulala. Et puis le désormais classique et explicite, La jeunesse emmerde le Front National de Béruriers Noirs. Bien sûr, chacun de ces groupes ne peut se résumer à cette identité textuelle aussi courte soit-elle, aussi efficace soit-elle, Bollocks, Riot, Kids. Alors mon idée aujourd'hui est de donner des exemples de l'émergence des slogans béruriers, auto-fabriqués entre 1981 et 1989, individuellement ou collectivement, et les sources mobilisées auxquelles je vais me référer sont tirées de mes archives personnelles qui sont encore un peu dispersées, et saisir l'évolution pour saisir l'évolution politique artistique du groupe. Alors j'emploierai en fait le terme d'idéologie sans S, thématique de cette journée dans un sens très large, correspondant plus à une biopolitique de Foucault, notamment à travers la question sous-jacente du pouvoir au sein d'un groupe sur les autres, car dans un groupe de rock, c'est aussi le gouvernement des autres impliquant le droit des gouvernés. C'est aussi une relation de pouvoir avec un public et son retour. Donc je découpe mon intervention en trois séquences correspondant globalement à trois points d'existence du groupe, trois périodes opérationnelles qui comprennent néanmoins des chevauchements, 83-85, 85-87, 87-89. En préambule numéro 1, je voudrais rappeler la genèse anarcho-stalinienne du groupe, à l'époque de l'ancien groupe Bérurier. Donc, j'en ai parlé dans un article publié dans la revue, j'ai oublié son titre, volume. La genèse de cette pratique sur laquelle nous n'avions aucun recul et peu de culture remonte à mes débuts de chanteur au sein du groupe Les Béruriers, formé d'Olaf, de Pierrot et de temps à autre de Bruno Barterrifiant, qui sera remplacé par la fameuse boîte à rythme, la DRM-16 Electro-Harmonix, qui a été achetée avec Olaf le 10 février 81 à RDM Music à Pigalle, un magasin que vous connaissez sûrement, et j'ai retrouvé la facture dans mes archives. Cela a le mérite de donner une date précise sur le basculement qui s'opère chez les Béruriers, avant Béruriers Noirs donc, entre formation classique avec batterie tabouret et trio de bananeux improbables comprenant deux guitares, une boîte et chant. C'est d'ailleurs avec Olaf que s'élaborèrent les premières lubies névroses politiques ou idées forces lorsque nous avons édité le journal Foulard Noir, un ovni anarcho-stalinien qui présentait plusieurs et qui était assez particulier, qui était une sorte de brûlot provocateur. En préambule 2 de cette aventure, je voudrais rappeler ce que Voto a évoqué rapidement. C'est ce fameux discours cross du 1er juin de la salle de la Roquette. Peu de gens se sont intéressés en fait à cette performance politique ce jour-là, sur un podium recouvert d'un drap blanc sur lequel est bombée une étoile encadrée par deux marteaux et faucilles. Je déclame un discours dit discours cross pour cross en l'air camarade, qui renvoie les luttes révolutionnaires à leurs inhumanités. Le texte s'est construit sur la base de tracts récupérés dans les manifestations. Dans le public, des punks apprécient la geste provocatrice pour sa mise en scène théâtrale, et puis des skins, déjà, qui n'ont pas trop saisi la subtilité du propos, se font déjà une idée du groupe. Ce sont des communistes, entend-on dans la salle. Cette entrée en matière qui questionne la révolution violente et son projet totalitaire va accompagner toute l'histoire du groupe. Et cette performance va inaugurer la première séquence de Berruyer Noir. Cette première séquence, je l'ai nommée avec un néologisme expressionnismé. Notre premier objectif avec Laurent relevait d'une opération de décrassage. Nous passions du deuil national de Bazooka, je vous rappelle l'épisode dictateur graphique dans Libération, à la chambre noire, au bain révélateur de la photo. Pour nous, le noir de Berruyer, donc caricature du beau français, se promettait de révéler, faire surgir, dénoncer, poser un diagnostic. Tout compte fait, et toute proportion gardée évidemment, parce que je ne connaissais pas le travail de Foucault à cette époque, notre décryptage, notre mise en réflexion et de relais d'information, je dirais presque d'agence de presse de l'insoumission, n'était pas si éloigné de la démarche de Foucault, je le cite, c'est-à-dire de faire apparaître ce qui est proche, ce qui est immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu'à cause de cela, nous ne le percevons pas. Fermez la parenthèse. Rendre visible ce qui est précisément invisible, mais que nous ne voyons pas et que nous ne voulions pas voir, nous dirions ce qui existe, mais que l'on se refuse à voir et à analyser. Ce qui nous semblait proche du punk, conceptuellement et physiquement dans nos chairs, était présent dans l'insoumission, la déraison, donc l'hôpital psychiatrique, la prison ou encore la marginalité. En gros, nous étions des objecteurs de conscience. Prison, hôpitaux, marge, on comprend mieux ce qui peut nous lier aux travaux du philosophe, qu'on connaîtra bien plus tard. Par exemple, pour Foucault, la prison était une région cachée, cette case noire de la société mise à jour et questionnée, et nous le ferons à plusieurs reprises tout au long de l'aventure berruyère avec Nada 84, Pavillon 36, sur les toits, en soutenant des publications comme Cavale. Notre démarche d'agence de presse alternative s'exprime déjà dans notre premier logo. On l'a ici, avec tout en haut, avec le slogan « Tant qu'il y a du noir, il y a de l'espoir ». Et puis les deux affreux reporters à côté. Et puis ces images provocatrices de la jeune fille de Céveso, hein, de ce nuage chimique qui est représenté à la bazooka. Alors le concept, le moyen pour mener cette action, j'ai développé ce concept de petit théâtre de force, et qui est restitué d'ailleurs par le graphisme de cette époque, et musicalement il fallait aussi restituer l'importance du son brut, je dirais l'intégrité de la force du vivant dans nos compositions musicales. C'est la raison pour laquelle on a produit le premier concert de Palikao a pu sortir grâce à Visa, qui était dans la même logique, hein, Visa qui était donc le label de Yves et de Lavaux, j'ai plus son prénom en tête, de la Fédération anarchiste. Mais il fallait restituer cette urgence vivante. Donc je reviendrai avant, bien avant, Laurent parle de Macadam, mais moi je passe, la première production Berru, c'est bien ce concert, c'est bien ce premier concert du 19 février 83 à Palikao. Et puis notre ami Lol, a tout de suite, qui nous accompagnait sur scène, a tout de suite ressenti cette volonté de restituer lui aussi cette première imagerie offensive de deux personnages, pas arrogants, mais en tout cas à l'offensive. L'identité graphique s'est trouvée également tout de suite comme une problématique essentielle. Hein, notre action a nécessité en fait d'élaborer cette identité. Alors cela passe par un graffiti au dos d'un blouson, là, d'une veste militaire, hein, le premier Berruyer Noir ici. Alors là, vous reconnaîtrez Vanzo, des ex-bouchers de Verdun, ex-politburo, un gars qui s'appelait Le Rouquin, Olive Boy, qui était notre premier SO, qui était notre premier SO et qui était un skinhead albinos, métis, et Laurent, et puis Olaf en début de DS, dans la DS de Laurent. Et donc, ça passe par un graffiti au dos de cette veste, en lettres cursives, et puis après, on choisit différents essais, différentes étapes, hein, différents logos que vous allez voir sur les albums, jusqu'à la création du cartouche Perrier qui va en fait fixer l'identité graphique du groupe jusqu'à la fin. Alors notre savoir à l'époque, il est empirique, on l'a rappelé à plusieurs reprises, fait de lectures, de bribes d'actualité, d'expériences personnelles, sans ces dernières qui contredisaient parfois les informations divulguées par les médias ou des organisations politiques, il y aurait sans doute eu un enfermement idéologique. Dès le départ, BN est plus proche du doute d'Albert Camus que de l'assertion de Jean-Paul Sartre, plus proche de l'ironie poétique de Roland Topor que d'un écrit de Che Guevara, plus proche d'Antonin Artaud que d'Andreas Bader, malgré une indéniable fascination pour les dissidents de l'Ouest, miroir renversé des dissidents de l'Est que l'on considérait également faisant partie de ce fameux creuset de la révolte. Plus proche aussi d'Anthony Burgess que de Jules Vallès. L'action scénique se voulait performance, confrontation dans la lignée de Fluxus, Goutaï ou Pollock, qui nourrissait mon imaginaire, et la technique était, comme on l'a souligné à plusieurs reprises, do it yourself. Tu as dans ton slide, Philippe, montré deux affiches que j'ai fait, les affiches concernant les squats, que j'ai vu apparaître. Et puis, les influences graphiques, elles proviennent autant de la culture dadaïste, soulignée donc par Natacha, que des clashs, Scritipoliti. Fonctionner en vase clos ne fonctionnait plus tellement en fait, en réalité, en duo. Ça paraissait pas viable sur le long terme, malgré le fait que dès le premier concert, un certain nombre de fans se sont agrégés très rapidement, de fans et puis de participants, d'acteurs, se sont agrégés très rapidement au groupe. La présence récurrente d'Elno, qui sera le futur chanteur de Des Négresses Vertes, de LOL, ancien Lucrat Milk, puis de Masto, ancien Lucrat Milk, et de Pascal Kung Fu, au saxo. Et un nouveau groupe va émerger, boîte, guitare, saxo, chant, chœur et pitrerie. LOL va l'appeler très vite le troupeau de rock, image de cette troupe itinérante enfermée la plupart du temps comme des bêtes dans un camion pour rejoindre d'autres troupeaux dans des contrées éloignées. Alors cette mutation, elle s'opère avec Concerto pour détraquer, album dans lequel s'imposent les chœurs de la Raya. Alors vous avez ici Julien, Elno, Nénès, Agnès, la femme de Laurent, et Nounours, notre rodise, moi, et Laurent en chef d'orchestre. Et puis l'affiche de promotion de Concerto. Et donc, c'est une identité noire et orange qui s'impose, clockwork, urgente, qui s'impose presque contre notre label. Je pourrais citer cette anecdote pour Concerto pour détraquer. On est en train de travailler avec Laurent dans ma chambre à faire la pochette. Philippe Baya nous appelle à 1h du matin, terrorisé. Non, ça va pas, le titre, Concerto pour détraquer, la pochette est horrible, vous êtes masqué, enfin, vous connaissez la pochette. Et il nous propose... on va l'appeler Rancard pour les Barjots. Alors tout de suite, on a explosé de rire, on a dit non Philippe, ça va pas. Voilà, donc il fallait toujours batailler parce qu'on imposait une image. Évidemment, Bondage voulait peut-être atténuer ce côté un peu truculent de Berruyer, qu'on retrouvait évidemment dans les fresques de LOL, hein, puisque d'un point de vue graphique, LOL est présent à toutes les étapes de l'identité visuelle du groupe. Il dessine déjà le théâtre de force sur le verso du 45 Tournada 84. Et puis il va figer notre duo dans Macadam Massacre, toujours en dos de pochette. Il va illustrer la Raya dans cette fresque géante de Concerto. Et puis il va passer du dos de couverture ou de l'intérieur de couverture en facing avec Joyeux Merdier, avec ces deux clowns qui apportent et qui façonnent la nouvelle image de clown déjanté du groupe. Alors j'ai pas mal d'anecdotes aussi sur ce passage qui n'est pas forcément non plus accepté énormément par le label, notamment quand on a fait Salut à toi, où Philippe Baya a failli voir ses lunettes cassées par Laurent, qui à cause d'une question de son de guitare que Laurent voulait maintenir absolument brute. Donc faut voir qu'on dormait dans le studio, hein. Enfin, à WW, au studio de Patrick Wendrich, quand on enregistrait, on dormait très souvent et Laurent, il dormait jamais. Lui, il était toujours à cran, à fond, pour suivre le son et veiller à ce que le son soit carton. Pendant toute l'année 86, va officier ce qui est devenu en fait le Macadam Circus, cette entité collective qui commence à scander la jeunesse emmerde le Front National en finale de Porcherie. J'en ai pas un souvenir très précis, mais voilà. Mais je suis presque sûr que ce slogan provient du public. Cette période est celle sur laquelle d'ailleurs j'ai le moins de choses à dire, malheureusement, parce qu'une grande partie de l'identité graphique, musicale et scénique repose sur les talents des autres membres du groupe, des Titi, donc les deux Titi, des Tontons, Elno et Lol, ces derniers faisant d'ailleurs la couverture d'Abracadaboum. Et Lol, lui, était cet acrobate kamikaze sur scène, devenu en fait l'acteur aussi de ses propres dessins. Donc d'un point de vue structurel, Macadam Circus conserve néanmoins la dimension d'un groupe de rock, je dirais, classique, rassemblant trois duos sur scène et un saxo. Et avec, pour les gros concerts, on s'enrichit de Mickey, l'acrobate vietnamien, notamment au concert de la Mutualité du 24 avril 86, ou de Pascal Kung Fu, par exemple pour le concert du Zénith. Donc le groupe joue tant bien que mal, avec les sonos du bord. Le public reçoit tant bien que mal aussi, mais la barrière est encore présente, je dirais, entre le groupe et lui-même et la scène. Donc c'est un peu l'illustration de la troupe. Alors la séquence 3. Évidemment, quand tout semble rouler, codifié, rien ne va plus. Le troupeau de rock commence à rugir dans le camion. Se met en grève, Elno et Lol se mettent en grève, Lol crée un syndicat au sein du groupe, le Zinzindicat, et le groupe implose à partir de juin 87 avec le départ de Elno, de Lol momentanément et de la Grande Titi. Les relations avec le label Bondage se tendent avec l'ouverture de la boutique de disques qui dépasse notre entendement. Et pour remédier à cette première implosion, Laurent et moi-même, un peu comme Mao Tse-Tung, on décide de poursuivre, donc de se maintenir au pouvoir en s'appuyant sur les masses. Les masses, c'est-à-dire le public. L'opération de sauvegarde et de reprise en main du groupe est illustrée par la création du bulletin MDLJ, le mouvement de la jeunesse, que vous pouvez mettre en versus partie de la jeunesse de la souris, qui se donne pour ambition de diffuser la voix officielle du groupe et exprimer la solidarité de la jeunesse. C'est une opération de propagande qui remet les points sur les i lorsqu'on estime que c'est nécessaire avec les médias. C'est assez paradoxal parce que j'y développe un discours antitotalitaire dans la lignée du droit des gouvernés explicité par Foucault, tout en mettant en avant l'aspect révolution culturelle promue par le groupe. Alors on peut lire ça dans les éditos du bulletin. Alors cette solidarité de la jeunesse, elle est exprimée par cette espèce de bandeau qui apparaît déjà sur Joyeux Merdier, où on voit, ben, ça part du psychobilly jusqu'au reggae man de l'autre côté de... Voilà, avec évidemment toute cette jeunesse qui venait dans nos concerts. D'un point de vue conceptuel, je bricole en 87 un logo FZM, Folklore de la Zone Mondiale, qui est placé sur l'album Abracadaboum, signe concurrentiel au mercantilisme de Bondage. Alors il est élaboré à partir d'une map monde et d'un aigle, tous deux repérés dans un petit magazine promotionnel du 13e en langue chinoise, qui vantait des produits asiatiques. Les deux éléments sont découpés, assemblés, et la mention Folklore de la Zone Mondiale est inscrite en cercle. Le logo sera nettoyé après, et l'aigle transformé en pigeon, ce qui m'a fortement déplu. On passe du troupeau de rock au Macadam Circus, donc, présent sur l'affiche du Zénith. Et le Macadam Circus va prendre vraiment l'allure d'une véritable troupe de théâtre ambulant, qu'on appelait le poulailler, élargissant le troupeau de rock, donc initial à 13 personnes et parfois plus. Fanfan, Laurent, Masto, Petit Titi, Lol, Jojo, Jean-Mi, Nounours, Valoche, Mickey, Lulu, Michboul, Tinouche, Pierrot. Et si l'on compte le SO en plus, c'est plus de 30 personnes qui se déplacent à chaque concert. Le duo initial est noyé et tend à disparaître au profit du public. Les concerts sont aussi l'occasion d'offrir au public des stands de presse alternatives axés sur les luttes sociales et politiques, un aperçu est donné dans la pochette, par exemple, intérieure de Ils veulent nous tuer, où on a une série de magazines alternatifs présentés. Le bulletin Mouvement de la jeunesse se fait également le relais de cette contre-culture. En comparaison à la première séquence, avec la première séquence, nous sommes plus totalement un théâtre de force, en confrontation avec ses idées et le public, mais je dirais une avant-garde théâtrale et festive, un porte-voix politico-musical en résonance avec le public, bigarré et mélangé, que nous assimilons donc, comme essentialisons presque, comme un mouvement de la jeunesse. Pour autant, donc, il s'agit de rester le porte-voix de la révolte de la jeunesse. Un jour de concert, Mickey, donc l'acrobate vietnamien, invente le Yes Futur, sur lequel revient Laurent dans le petit documentaire de Voto, bombé sur un drap blanc qu'il agite face au public, et il donne de fait un nouveau sens à nos acrobaties scéniques. Alors malgré le départ d'Elno et de la Grande City, la composition du groupe reste collective autour d'un noyau dur, je dirais, une sorte de direction, Laurent, Toto et moi-même, le dernier trio qui apparaît en fait sur la dernière pochette de 89 et qui cache évidemment l'ensemble de la troupe. Alors en termes d'éthique ou de doxa plus radicale, le groupe défend un certain nombre de principes dont je récapitule ici dans ce tableau les principaux éléments. Cette éthique est d'ailleurs farouchement défendue par Marsu, puis par nous autres après, tout au long de son management. Et sur le plan des concerts, évidemment, il y avait toujours ce soin de choisir un organisateur de bonne réputation, avoir des prix abordables, un droit de regard sur le bar, pas de pub dans la salle ou sur scène, respect et protection du public, on pourra en reparler, respect de la troupe par les organisateurs, et l'interaction scène-public, drapeau, confetti, envahissement de scène. C'est-à-dire que on touchait une commission, il était hors de question que tout l'argent parte, ou alors il y avait une négociation suivant les concerts, si c'était un lieu alternatif ou pas. Mais jouer dans une salle surchauffée pour faire marcher le bar et ne pas tenir compte de notre avis, c'était hors de question. Okay. C'était pas une question d'alcool. Tous les concerts qu'on a fait en Bretagne, les gens étaient bourrés avant même d'entrer sur scène. En général. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et l'engagement du public. Alors, j'ai vu qu'on en a discuté déjà un peu dans la journée, et la solidarité de la jeunesse, dans ce sens que nous étions aussi la cible d'attaque. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette biopolitique rapide ? Il s'agit d'une conceptualisation in situ, je dirais, qui s'est faite au fil de l'eau. Un amateurisme inhérent et subi qui est devenu un amateurisme revendiqué et justifié. Je renvoie aussi à ce que dit Laurent en tant qu'amateur qui vient du cœur, qui était plutôt d'ailleurs quelque chose que Masto avait avancé. Et morphologiquement, on observe que le duo initial s'est constamment élargi au troupeau de rock, à l'ensemble du public, tout en maintenant une base qui évolue du duo en se refermant par le trio. D'un point de vue culturel, les premières lueurs noires ont laissé place aux couleurs chatoyantes du monde. On est passé de la rue sombre de Carco, mal éclairée, au feu de la rampe. On est passé de l'anarchisme stirnérien, individualiste et radical à un credo de groupe non gouvernemental, en rejoignant les combats d'Amnesty International, d'associations de la société civile en lutte contre l'enfermement pour les minorités ethniques, pour des catégories d'opprimés. Cette mutation s'est faite à travers une révolution culturelle intérieure en se positionnant comme une sorte d'avant-garde au mouvement de la jeunesse pour révolutionner la pratique scénique et lui permettre de s'organiser et d'agir en toute indépendance. Mais théoriser la scène alternative a trouvé rapidement ses limites. Cette révolution a avorté et a mené à la séparation du groupe. De tant qu'il y a du noir à de l'espoir, il y a de l'espoir à Folklore Zone Mondiale. On observe une évolution scénique de la confrontation avec le public et la dissolution dans le public exprimée par les envahissements de scène à la fin des concerts. Mais le fait de s'auto-saborder en novembre 89 offre plusieurs lectures. Cela pouvait signifier que notre combat menait à une impasse, car non suivi par l'ensemble de la scène, ce qui a été le cas. Cela pouvait signifier également que le Folklore Zone Mondiale se présentait comme une nouvelle opportunité pour évoluer musicalement et intellectuellement vers autre chose, ce qui s'est posé comme question, d'où la nécessité de la dissolution. Or, cette transformation de l'entité Béruria Noire n'a pas eu lieu. La dissolution a très vite confirmé une division profonde. C'était comme si l'horizon décliné par le concept FZM se révélait être une pure illusion, un simple tampon sanitaire, refermant la boucle sur un élément clé de la fondation du groupe, sur lequel je voudrais terminer, agir et s'autodétruire, réaliser un seul et unique concert puis disparaître. Ce moment revendiqué comme éphémère durera en réalité 7 ans. Il était temps d'y mettre fin. C'est ce que j'appelais déjà à l'époque les institutions du suicide et de la réparation.
Merci beaucoup François. Est-ce qu'on prend tout de suite quelques questions? Si, j'imagine que vous avez peut-être quelques mots à soumettre à François, les uns et les autres.
Moi, je voulais dire que c'est une époque que j'ai pas connue parce que je suis né en 90, on se connaît pas, tu vois, mais ça m'a vachement influencé parce que quand j'étais au lycée, j'écoutais déjà un peu de punk, mais il y avait à ce moment-là la loi Pécresse, la LRU, et on se levait super tôt pour aller bloquer le lycée. Et chaque jour plus tôt, parce que le lycée il s'ouvrait de plus en plus tôt. Donc voilà. Et en fait, il y avait une bande son à ce moment-là de cette mobilisation. Seulement pour moi, parce que les autres gars, ils écoutaient pas trop ça. C'était les Berus. Et donc du coup, il y avait vraiment un truc. Moi, j'avais 18 ans. Et j'ai découvert les Berus en même temps que vive cette mobilisation où tous les lycées se retrouvaient les uns après l'autre pour aller tous ensemble en manifestation. Et puis, donc déjà, c'est quelque chose, quoi. C'était vraiment. Et après, depuis, je suis resté dans la scène, quoi.
Je vais donner suite à ce que vient de dire Clément, mais en faisant un retour en arrière, j'avais remarqué que quand il y a eu les mobilisations lycéennes et étudiantes de 86 contre les lois Monory de Vaquet, ça correspond aussi, si je me souviens bien, à l'apparition vraiment médiatique grand public de Béruria Noire, parce qu'il y a plein d'articles à l'époque sur les mobilisations qui citent Béruria Noire comme étant un peu une bande son, non pas de toute la mobilisation, mais d'une partie de la mobilisation. Et j'ai retrouvé pas mal d'articles de 86 là-dessus.
Tu as raison. Mais ça a été un problème pour nous. Les médias ont été un problème pour nous parce que on ne voulait pas que le sujet soit traité de cette façon-là, notamment dans Actuel. Mais c'est de notre faute. Puis on maîtrisait pas du tout cet outil-là. Oui, mais nous, il faut voir qu'on est dans la construction d'une alternative. On était encore dans la photocopie et dans le papier glacé nous dérangeait à tous les niveaux. Et puis le discours d'Actuel sur le look Béru nous dérangeait énormément. Mais tu as raison parce que 4 décembre 86, on fait le concert à l'Élysée-Montmartre, qui est une sacrée foire. Et 2 jours plus tard, Ali Malik Oussekine décède. Et moi, j'étais donc, je vous l'ai déjà dit, j'étais venu à la manifestation. Et à l'époque, dans ces manifestations, il y avait des petits flyers « Vive le feu ». Mais nous, on n'était pas du tout... C'était hors de nous. C'est-à-dire que c'est là où je dis on fabrique des titres et on ne connaît pas la portée réelle de ces titres et l'impact qu'il va réellement avoir, ce que tu me disais, toi, dans ton lycée, ou notre ami qui s'est exprimé sur sa famille, là, tout à l'heure, qui m'a dit « Vous m'avez renversé la tête, le cerveau ». Mais... voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser cet instant précis lorsque la musique pénètre dans ton âme.
S'il te plaît, peut-être que je me trompe, mais j'ai un concert, j'ai un souvenir de concert des Berruriers à l'Élysée-Montmartre. Donc, il y avait encore les vieilles tentures rouges et les bancs, enfin les sièges rouges, tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Où il y a peut-être t'as pas souvenir, mais bon, il y a eu il y avait les concerts des Berruis. La scène n'était pas à gauche, elle était en face à l'époque, c'est à l'époque. Hein. Et puis il y a eu le feu quand vous avez chanté et vive le feu dans les grosses tentures de velours rouge qui montaient dans la salle de l'Élysée Montmartre. Est-ce que tu as un souvenir de ça? Tiens.
Non mais
attends.
J'ai souvenir d'une évacuation semi.
Oui, parce qu'il y avait des escalades. Il y avait des escalades dans la salle, donc il y a eu de la baston. Vous avez continué à jouer, et puis en même temps, il y avait Donc, puis on avait tout cassé, les sièges, parce que c'était l'Élysée Montmartre. Donc, il y avait des sièges en vélo comme ça. Et puis, hop, puis il y avait tous les punks qui cassaient tout. Et puis, il y avait une histoire de skinhead dans la salle, avec les punks. Donc, vous avez continué à jouer. Puis, donc, il y a une baston dans la salle. Donc, il y avait les CRS qui étaient à la sortie, les pompiers qui sont venus.
C'est la mutualité, je pense. C'est au concert de la mutualité.
C'est sûr, c'était pas les Montmartre.
Non, parce que tous les quarts de CRS étaient à proximité du domicile de Mitterrand. Et donc, ils avaient fait un gros cordon. Et effectivement, les skins sont venus pour... C'est pour ça que,
il y avait une histoire de dingue.
C'est pour ça qu'on a créé ce SO, pour protéger le public, qui était attaqué aux abords des salles.
Ouais,
pas réellement dans la salle.
Là, mais je pense que c'était un truc de ouf.
Dans la salle, il y a eu un attentat... Enfin, il y a eu une simili de la lacryma aussi qui a été, jetée.
Mais c'était marrant quelque part. On s'est battu avec les CRS à la sortie. C'était assez marrant.
Ce concert est important parce qu'il a quand même dégénéré, donc, à cause de ça.
Oui, oui.
Et lorsqu'on a voulu faire un autre gros concert dans une grosse salle parisienne plus au nord, j'ai retrouvé le courrier de la préfecture de police. On avait fait une demande en bonne et due forme. Ils nous avaient dit ensuite aux indissidents de la mutualité. Ils n'avaient pas autorisé l'organisateur à organiser un concert Béru dans cette nouvelle salle qui était le local, enfin, sur les grands boulevards, là, de... la loco, je sais pas. Non, pas, c'était pas la loco, mais sur les grands boulevards, opéra... On est toujours le plus et le moins, comme en électricité.
Et je voulais savoir aussi, sur le concert du Zénith, comme à l'époque, je crois qu'au Zénith, il y avait des publicités. Vous aviez réussi à imposer au Zénith qu'il n'y ait aucune publicité et des choses comme ça.
Au Zénith, si tu regardes l'affiche, on a imposé les sponsors Radio Libertaire, et puis je ne sais plus si c'est Radio Aligre. On a tout imposé. Ce qui nous a échappé au Zénith, mais ce qui nous a plu, c'était que les mobilisés et handicapés de la RATP avaient fait leurs propres affiches dans le métro. Donc on avait des affiches avec les mutilés et mobilisés de la RATP présents Béroir et Noir. Ça nous plaisait assez. Mais non, tout a été contrôlé. Le Zénith, ça a été un acte vraiment très puissant, parce que le directeur du Zénith, à l'époque, a été contacté par les RG. En fait, ils sont venus le voir pour voir comment évacuer la salle en cas de trouble. Ils avaient peur que 6000 personnes se rendent à l'Élysée sans gilet jaune, évidemment, en foulard noir, et fassent du grabuge dans la rue, quoi. Donc on l'a su, nous, après... Après le Zénith, on a su les implications que ça avait pu avoir.
On t'écoute.
Oui, merci. Alors moi, du coup, je suis très intéressée quand vous parlez du Petit Théâtre de Force, et notamment vous faites une référence à Fluxus et à Artaud. Est-ce que ces références, elles sont venues au moment de la création, ou est-ce que c'est vous, comme maintenant vous faites des références à Foucault, qui les appliquez plus tard? Et est-ce qu'il existe des captations ou des archives filmiques de ces confrontations, performances, comme vous les appelez?
Alors, Foucault, c'est bien tardif. Je dirais, c'est depuis que je suis à l'ENS. Hein, je ne connaissais pas ce skinhead rasé. Je ne connaissais pas. Non, mais c'est tardif. Par contre, Fluxus, Goutaille et tout ça, ça fait partie de mon propre cursus d'étudiant en art.
Culturel.
Voilà, de mon propre patrimoine. À l'époque, j'aimais beaucoup l'action painting de Pollock. Et la geste m'intéressait. C'est-à-dire... on n'a pas été très très loin, hein. Je regrette un peu ça, d'ailleurs. Et puis d'autres s'en sont chargés. Je veux dire, LOL faisait des acrobaties hallucinantes dans les concerts. Donc, voilà. Mais donc, effectivement, tu as raison. Foucault, c'est bien plus tardif. Mais par contre, tout ce que j'annonce, Carco, Artaud, Sartre, Camus, c'était déjà les années lycées, quoi.
C'est vraiment intéressant cette remarque que tu viens de faire, parce que j'allais l'évoquer tout à l'heure et on pourra continuer pour explorer ces espaces de la radicalité. Bertin dit la même chose, c'est quand il a rencontré son avocat Christian Etelin, donc à Toulouse, qui est donc cet avocat de Toulouse qui a défendu les anards, etc., dont la femme Marie-Christine travaillait en prison dans les années 70 avec Foucault. Et donc il découvre et se rend compte, finalement, c'est intéressant cette histoire de la découverte et la réflexivité de la théorisation qui vient bien après, 30 années après la pratique, et qui donne à la fois un miroir et une raison et un sens. C'est vraiment intéressant dans
Par
cette
contre,
histoire-là.
En relisant récemment le bouquin de Artaud, Le théâtre et son double, il y a vraiment un passage, d'ailleurs que j'avais cité à deux copains qui faisaient un film sur les Bérus, vraiment deux passages qui montrent comment la scène et le public ne font plus qu'un. Il éclate la scène déjà à Artaud. Mmh. Et ça nous plaisait beaucoup avec Laurent.
L'avais lu avant.
Et ça, je l'avais lu avant. Ouais, je l'avais intégré presque. C'était presque quelque chose qu'on voulait faire. Dans le sens de petit théâtre de force, il y a cette idée aussi de faire passer l'émotion brute. Voilà, qui était particulière.
Merci.
Où le corps est en action aussi. Hein.